Vivez le Festival d'Avignon en direct avec Osmose Radio.
Osmose Radio ?
Osmose !
Osmose !
La web radio du off.
Alors, en direct du Novotel Avignon, pour Osmose Radio, la radio du web et du Festival d'Avignon. Et je reçois aujourd'hui Jean-Paul Sermadiras, qui nous propose au Théâtre de l'Étincelle le rêve d'un homme ridicule. Alors, je précise, Théâtre de l'Étincelle, théâtre permanent d'Avignon, non subventionné, et il faut le rappeler. C'est important. Dirigé de main de maître par Claudie Lemonnier, directrice artistique. Et Michel Martin, bien entendu. Voilà, donc Jean-Paul Sermadiras, pouvez-vous nous dire quelques mots sur cette pièce de Dostoïevski qu'il a écrite en 1877. En fait, ce sont dans un recueil, on peut dire, de nouvelles. Hein, et donc, qui a eu un succès planétaire, si je puis dire. Ouais. Et que vous avez adapté.
Oui.
Voilà, et que vous proposez dans une version vraiment très originale et que je conseille à tout le monde d'aller découvrir. Alors, je vous écoute, si vous pouvez nous parler de cette pièce.
Je vous remercie déjà de m'accueillir. Oui, c'est une nouvelle que Dostoïevski a écrite à la fin de sa vie. Donc, elle a cette particularité qu'au moment où il l'a écrite, il a été reconnu. Parce qu'il faut savoir que Dostoïevski a mis beaucoup de temps avant d'avoir une reconnaissance par le public.
Oui.
Il écrivait parce qu'il était tout le temps en train de courir derrière des subsides. Donc il écrivait des épisodes, la plupart de ses grands romans paraissaient dans des revues. Il a atteint cette reconnaissance une dizaine d'années avant de disparaître. Et cette nouvelle...
Oui, d'ailleurs, avec les frères Karamazov et l'Idiot, qui ont déjà commencé à...
Voilà. Mais vraiment, il a eu cette reconnaissance totale, et plus grande d'ailleurs que Tolstoï, parce que Tolstoï, on va dire qu'il était aimé, apprécié par le public, mais principalement, on va dire, par une société bourgeoise et plutôt aisée, alors que Dostoïevski avait les deux, quoi. Il avait cette société bourgeoise et aussi cette société populaire. D'ailleurs, au moment de son enterrement, il y a eu des émeutes. Il y avait toute la foule, tout le monde était dehors parce que tout le monde se reconnaissait. Parce que peut-être que c'est l'un des seuls auteurs, ou peut-être le plus grand d'ailleurs, qui a inspiré énormément d'auteurs français aussi du XXe siècle. Quand on voit tous ceux qui nous parlent de Dostoïevski, on est surpris, hein, de Camus à Gide. Parce qu'il a cette façon de pouvoir décrire l'âme humaine. Il est allé tellement profond dans ce que nous sommes intrinsèquement que c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on entend ce texte, ces gens sortent de la salle et me disent « Mais c'est incroyable, on croirait que c'était écrit hier ».
Ah oui, c'est très, très moderne, en fait. Hein. Et en plus, dans votre adaptation, c'est tout à fait dans l'air du temps. Hein.
Voilà.
Des questionnements sur la conscience.
Exactement. Et il y a certains mots qui sont employés, je ne vais rien révéler, mais qui font que des gens viennent me voir à la fin et pensent que j'ai changé des mots. Alors que j'ai adapté, nous avons adapté, parce que dans l'écriture de Dostoïevski, il y a beaucoup parfois de répétitions, des petites digressions, et on voulait rester sur ce centre qui est unique, ce personnage qui est au moment d'un profond désespoir, en fait, va vivre une initiation par le rêve. Et on voulait rester sur cette ligne-là, donc on a coupé quelques petites digressions dans le texte. On s'est permis de mettre quelques passages au présent pour pas être tout le temps dans la narration et que ça puisse permettre dans le jeu de vivre les choses sur le moment. Mais on a rajouté aucun mot. Tous les mots qui sont utilisés à l'intérieur du texte sont employés par Dostoïevski. Et il y a des choses dont il nous parle, qu'il nous décrit, qui sont tellement, tellement contemporaine, que vraiment les gens viennent me voir à la fin et me disent « Mais vous avez changé des mots, c'est pas possible,
oui.
c'est pas
et, le texte. » Et donc pour parler de l'histoire même, c'est en fait il est au grand désespoir, et puis il regarde le ciel, cet homme, il voit une petite étoile, et puis il dit « Je vais me suicider
».
Alors est-ce que c'est justement le fait de se sentir si petit par rapport à tout le reste, et ridicule somme toute, hein, puisque finalement ce ridicule, il le transforme en un autre ridicule à la fin, qu'il assume totalement. Qui est vraiment une prise de conscience de « je suis petit, mais je peux aussi offrir au monde autre chose, notamment de l'amour voilà. ».
C'est vrai. Oui, c'est vrai que cette étoile, en fait, il a décidé de se suicider. Et cette étoile déclenche et dit « il a déjà acheté le revolver et tout ». Il dit « ce soir, je vais le faire ». Puis il va se passer un autre événement. Je ne vais pas tout raconter.
Non, il ne faut pas tout dire. Hein,
qui va faire que, il va... il va rentrer dans un questionnement et ce questionnement va reculer un peu le suicide et va faire qu'il va partir dans ce rêve et que ce rêve va bouleverser sa vie. Cet homme, en fait, se sent ridicule. Pourquoi ? Parce qu'il croit dans l'homme. Et c'est ça la posture de Dostoïevski qui est profonde et intéressante. C'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense que l'homme est bon au fond de lui, qu'il est perverti par la vie, par la société, par plein de choses, mais qu'il y a quelque chose en lui qui reste bon et vrai. Quand on pense ça, évidemment, beaucoup de gens pensent que c'est ridicule de penser une chose comme ça.
Oui, c'est pas l'homme est un bonhomme, du coup, pour reprendre quelqu'un de connu.
Donc, tout le monde le voit comme ridicule parce qu'il est porteur de ça, mais lui, il n'est pas conscient. Il est conscient du ridicule, mais pas du pourquoi il est ridicule. Et ce rêve va lui permettre de comprendre qu'en fait, oui, il est ridicule aux yeux des autres parce qu'il croit en l'homme. Il croit que l'homme est fondamentalement bon. Et quand il va comprendre ça, il va assumer complètement le fait d'être ridicule. Parce que qu'est-ce que sont... Les autres ne sont pas ridicules, mais ils sont cyniques, ils sont tristes, ils sont dépressifs. Ils ont toutes ces choses qu'on a eues pendant un moment dans les années 60-70, où pour être un artiste intelligent, fallait être plutôt dépressif et noir, et se dire que le monde allait mal. Mais même si le monde va mal, ce n'est pas forcément parce qu'on se répète que le monde va mal qu'il va aller mieux. Peut-être que chacun à l'intérieur de nous, si on allume cette petite flamme qu'on peut transmettre aux autres, ça va peut-être pas faire que le monde va aller mieux, mais il ira pas plus mal, ça c'est certain.
Et puis il y a ce rapport de la vie à la mort, si je puis dire, puisque Dostoïevski, en fait, j'ai lu qu'il il avait très peur de mourir dans son sommeil, et il laissait toujours une feuille sur son lit, au cas où ça le surprendrait de passer de vie à trépas, et qu'il aurait le temps d'écrire quelque chose. Voilà. Donc, d'où l'importance peut-être de toute la dimension de ce rêve, finalement, qui le transforme.
Oui,
comme une initiation, finalement.
Oui, voilà, c'est une sorte d'initiation qui va vivre à travers ce rêve. Pas qu'une sorte, d'ailleurs, une véritable initiation. Bon, c'est sûr, c'est quelqu'un qui a écrit une telle quantité avec la vie, on va pas, parce que là on pourrait en parler des heures, parce que sa vie elle est...
Oui, parce qu'il a fait de la prison, c'était pas simple.
Il a fait de la prison, il a été condamné à mort pour des raisons...
Bon, et à la dernière minute envoyé
au travail forcé. À la dernière minute, il a été sauvé par une décision du tsar, envoyé aux travaux forcés, où ça a bouleversé beaucoup de choses dans sa vie, parce que en fait, quand il s'est retrouvé en Sibérie, ce qu'on peut s'imaginer à la fin du 19e siècle, au milieu du 19e siècle, ne devait pas être très facile à vivre. Il s'est rendu compte là-bas que, il vivait avec des criminels et qu'il y avait les représentants de la loi, les matons, qui le frappaient, qui le maltraitaient. Et ces gens qui étaient des criminels, quand il était blessé, l'aidaient, venaient le soutenir. Donc ça a bouleversé beaucoup de choses dans son humanité.
Dans sa vision aussi.
Et il s'est vu que les choses n'étaient pas forcément blanc et noir, et ça l'a fait sortir de cette idée manichéenne, et plutôt de se dire que parfois quelqu'un, un homme, même un homme qui a été criminel, qui a fait des terribles choses, a un fond d'humanité et peut venir secourir un autre moment de son existence. D'ailleurs il le dit à un moment dans le texte, il dit exactement ça. Je sais que les hommes peuvent être beaux et heureux tout en vivant sur terre, et je ne peux pas croire que le mal soit l'état normal des hommes. Or, s'ils se moquent, c'est seulement de cette croyance-là.
Oui.
Et il nous explique aussi que chaque homme essaye de trouver sa voie à l'intérieur, de trouver sa liberté à l'intérieur de quelque chose, de s'accomplir, mais que certains prennent le mauvais chemin, mais sans vraiment en être conscient.
Il met en garde aussi sur le fait d'intellectualiser finalement la vie, d'intellectualiser le bonheur, sans savoir ce qu'est la vie et ce qu'est le bonheur. C'est un peu ce que va nous donner cette pièce, quelque part.
Exactement.
Hein, qui
exactement.
Apprend à vivre, à aimer, à être heureux.
Oui,
voilà, dans la simplicité, finalement.
Oui,
dans l'authenticité.
Oui. Voilà, c'est ce qu'il dit exactement ça. Oui, c'est vrai que on est arrivé dans une société qui théorise beaucoup les choses, et que on a besoin de comprendre des choses pour les vivre, pour avoir la sensation de les vivre pleinement, alors que lui pense que le véritable accès on l'a directement, c'est-à-dire de, on n'a pas besoin de connaître les choses pour les apprécier. Et on, que la connaissance, d'ailleurs il dit ça à un endroit, je trouve ça très joli, il dit que ces hommes que nous sommes, on pense que la connaissance est préférable au bonheur.
Ouais, c'est ça.
Et que pour atteindre ce bonheur, on a besoin de savoir les choses, que la conscience de la vie est supérieure à la vie. Et bon, pendant ce rêve, il va apprendre le contraire de cela. Que, au contraire, c'est justement parfois dans l'inconscience, dans la non-connaissance des choses, qu'on peut arriver à être et à vivre pleinement.
Et puis ça dénonce aussi finalement quelque chose de très actuel au niveau du matérialisme, de tout ce qui est extérieur à l'être, et finalement qui éloigne de la conscience.
Oui, 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 bien sûr. Il y a, quelque chose de, d'essentiel qui nous est décrit dans ce, qui nous, dans ce que raconte cette nouvelle. En plus, bon, on a l'impression que dans cette nouvelle, on retrouve des choses du prince Michin de l'idiot, on retrouve des choses de ces personnages, mais il y a... Il n'y a que le côté vraiment profond, mystique et spirituel de Dostoïevski, comme un concentré. Il ne part pas comme dans ses grands romans, dans des choses plus aussi sociales, des tas de formes. Dans toutes les histoires des romans de Dostoïevski, il y a tout le temps plein de niveaux de lecture, là aussi hein, d'ailleurs, mais il y a plusieurs histoires qui se racontent. Donc les choses sont parfois un peu complexes à comprendre. Là, c'est un homme qui vient parler à d'autres hommes et qui vient essayer de délivrer un message clair, profond, une sorte de clé pour comment accéder au bonheur et à la joie d'être et d'avoir cette capacité d'apprécier la vie. Rien que le fait de vivre, c'est ce qu'il dit à un moment, rien que ce fait-là est merveilleux. Et parfois, on perd ça parce que bon, bah, il nous arrive des choses aussi parfois terribles. Mais
il faut résister quand même. Hein. C'est violent aujourd'hui, hein, notre société.
Oui,
elle était aussi au temps de Dostoïevski, bien sûr.
Bien sûr,
encore plus violente peut-être.
Voilà.
Mais aujourd'hui, sans s'en rendre compte, on a cette violence.
Ouais, ouais, hein. Bien sûr.
Et donc à la fin, finalement, si je puis me permettre de le dire, il va se transformer finalement en Messie, puisque d'abord Dostoïevski, je crois, aimait beaucoup le Christ. Hein.
Oui.
Et donc il se sent investi finalement d'une mission.
Oui.
Pour que l'homme puisse...
Oui. Alors, c'était amusant d'ailleurs, il y a des moines qui sont venus voir pour la première fois le spectacle, et ils me disaient, parce que bon, il y a un moment, ils pensent qu'il pervertit les choses, mais il me dit non, il pervertit rien, la perversion est déjà à l'intérieur de ce monde. Oui, après, il va être chargé de ce qu'il a vu pendant ce rêve, et ça va lui donner envie et le besoin, au-delà de l'envie, le besoin de raconter cela à tout le monde pour dire oui, il y a une solution, il y a une solution. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on se dit le monde est terrible, sans nul doute, mais il y avait aussi des choses terribles à toutes les époques.
Voilà, bien sûr,
donc, nos grands-parents
ont vécu autre chose,
la guerre mondiale et des choses comme ça. On ne peut pas dire que voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui on voit les choses arriver. Et
on n'est plus habitué aussi à cette souffrance.
On
a été préservé, si je puis dire, de bien des mots.
On a pris l'habitude, mais on a pris l'habitude de la paix. Mais la paix, ce n'est pas malheureusement...
Il faut l'entretenir en soi, surtout. Hein.
L'entretenir en soi et la partager avec les autres.
Très bien. Donc pour conclure, Jean-Paul Sermadiras, qu'est-ce que vous pourriez dire pour inciter les gens à venir vous voir, absolument?
Pour les inciter à venir voir, je vais leur dire que c'est un texte, un des textes très importants de la littérature, que Dostoïevski est un auteur vraiment à découvrir et à redécouvrir, qui vont passer un moment profond, et pas simplement profond, qui va les faire ressortir avec la pêche, l'envie de vivre, et comprendre que les choses... Si on veut transformer les choses, il faut déjà se transformer à l'intérieur de nous. C'est ça qui va nous permettre d'apporter aux autres et de partager avec les autres le bonheur, la joie d'être sur Terre et de partager notre vie avec tous nos congénères.
Bon, mais je vous remercie infiniment pour ce partage. Et puis, je rappelle que vous faites quand même une performance assez exceptionnelle sur scène,
hein,
seul en scène. Voilà, que j'ai vu deux fois hein, déjà. Et franchement, j'encourage tout le monde vraiment à venir. Venez vite avant la fin du festival. Voilà. Vous ne pouvez pas partir sans avoir vu cette pièce. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et je vous dis à très bientôt.
À très bientôt. Je vous remercie. Hein, c'est très gentil.